C'est fou, c'est maintenant, et c'est pas gnangnan, c'est par Jupiter. Ouais.
Merci Laetitia Gaillet. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons confié le débriefing de l'émission à notre brillant stagiaire qui s'appelle Mathias Volant. Une façon de, pour lui de valider ses acquis. Au bout déjà, on est à mi-parcours, hein, il reste avec nous jusqu'en en juin. Mathias, le Matou, comme on l'appelle.
Ouais, Matou.
Matou, attention.
Matouche, quoi. Bon, bah, je vous laisse. Hein.
Le débrief de Matou, c'est parti, c'est maintenant. Bon, mon petit Mathias, ça fait 3 mois que t'es stagiaire dans l'émission.
Ouais, hein, je crois qu'il est temps de faire un petit bilan à mi-parcours. Ouais.
Ah oui, ça tombe bien. À propos de l'émission d'hier avec Sheila, j'ai 2-3 trucs à vous dire.
Ah non, non, un bilan te concernant, mon petit pote.
Alors, sur le café, tu te débrouilles. Hein. Encore que sur le macchiato, t'as encore une marge de progression sur la mousse de lait.
Ouais, j'ai regardé pour les photocopies. Bon, t'as acquis les compétences, format 3 recto verso, pas de problème de ce côté-là. Ouais.
Sur la pédicure de Visorec, progrès énorme, c'est indéniable.
C'est fort. Par contre, ma grand-mère attend toujours son lavement.
Guillaume, on avait dit pas ta grand-mère.
Ah non, pas ma grand-mère, d'accord.
C'était vraiment dans l'émission, ça. Mais c'est totalement illégal ce que vous faites.
Mon petit pote là, pour ça, il aurait fallu signer un contrat déjà, à mon avis.
Et puis bon, t'as pas encore totalement intégré l'esprit start-up, je te signale. On t'attend toujours sur le tournoi de baby-foot et sur le cupcake.
Ouais, la dernière fois, c'était dégueulasse, je te signale. Donc,
alors moi, hier, mon moment préféré, quand même, c'était la blague d'Alex sur Francis Lalanne. On est tous tombés dans le panneau.
Oh là là, génial, grand moment de radio, sublime.
Du génie
absolu.
Ça, c'était mon idée.
Oui.
Oui, alors Calmos. C'était pas foufou non plus.
C'était pas dingue.
Non, on va pas s'enflammer. Chacun a sa place. Toi, ta place.
Ouais, ta place, c'est au fond à gauche, là, derrière la pile d'olives que t'as à lire pour ma chronique.
Voilà. Alors, je finirai cette nuit, juste avant le 5-7. Il faut d'abord que je réécoute toutes les émissions depuis 4 ans, que je les traduise en allemand et en tchèque, et que j'envoie le dossier pour l'adaptation aux States.
Ouais, à propos de dossier, pour celui-là, t'oublieras pas de mettre le timbre, comme pour la dernière fois, au CSA.
Et du nerf, mon garçon.
Allez.
Si on t'a installé un lit dans le bureau, c'est pas pour dormir, c'est pour que tu sois plutôt au boulot.
Allez. Yes.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'ambiance start-up, car nous écouter, c'est optimiser votre journée. Et voici les 3 informations qui font l'objet d'un montage sophistiqué, mais c'est légal. C'est le mois des soldes à l'Assemblée. Grosse promotion sur les députés avec moins 30% d'élus proposés dans la réforme des institutions. On passerait de 577 à 404 élus. Qu'en pense le citoyen ?
Je m'en tamponne de ton député. Je l'emmerde de ton député.
Pour apprendre aux enfants à programmer, à coder, une sortie scolaire est organisée par la marque Apple. Une sortie scolaire dans un magasin à visée pédagogique.
Vous êtes dans la pomme. Tenez tout à la pomme. Vous êtes une pomme.
Le petit-fils de Picasso rêvait qu'Antonio Banderas incarne son grand-père à l'écran. C'est fait et l'héritier du peintre confie son trouble une fois devant l'incarnation de Picasso sur le plateau de tournage.
C'est clair, là, avec Marum, là, on a fait l'arbre généalogique de la famille. Je suis le descendant direct de Louis XVI. Le roi ? Bah, évidemment. Pas le frère de Damien XVI, ouais.
Lui aussi, il vient d'une très belle lignée.
Aïe, aïe, aïe.
Il descend des pintes de bière.
C'est pas faux. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, eh bien, figurez-vous, coup de bol, une belle équipe.
Ah oui, bien sûr.
À 17h20, la blonde dépressive de cette émission, la fille cachée de Pamela Anderson et Michael Haneke. C'est vous, Constance, bonjour.
C'est moi,
oui. Bonjour. De quoi elle va nous parler ?
De la mort.
Et en plein dans le mille. À 17h30, c'est la France qui a accouché de cet enfant terrible et depuis Marianne est en psychanalyse. C'est à cause de vous, Guillaume Meurice.
Oui,
bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. C'est pas loin de la mort, moi je suis allé au salon des seniors ce matin et j'ai rencontré plein de seniors qui aiment plein de trucs.
Il faut bien aimer quelque chose dans la vie, nom de Dieu, merde.
Ah ouais, ça va, on gueule pas non plus.
Et enfin, 17h40, celle pour qui je me suis décidé à devenir un médiévaliste nonagénaire de droite pour enfin lui plaire un peu. C'est vous, Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous.
C'est un échec une fois de plus. De quoi on va parler ?
De l'île et de la mort.
Une belle émission. Heureusement que l'invité est sympa parce que...
Je comprends pourquoi vous m'avez invité. Merde.
Restez avec nous et surtout pensez printemps les amis. Je me tourne vers celle que nous avons nommée Chief Happiness Manager. Vous commencez le théâtre à 15 ans et en 2003 vous obtenez le Molière de la révélation féminine pour Un petit jeu sans conséquences de Jean Del. Vous avez joué aux côtés de Michel...
Et Cibléras.
Pardon ?
Et Cibléras.
Ah,
Ils étaient deux,
Jean Del et Cibléras. Et vous avez joué aux côtés de Michel Bouquet dans Le Roi se meurt de Ionesco. tout seul, lui. À la télévision, on vous a vu dans Maison Close sur Canal+, ou en Femme au foyer dépressive dans Scène de ménage sur M6. Au cinéma, vous avez tourné dans Combien tu m'aimes de Bertrand Blier, LOL de Lisa Azuelos, Tellement proche de Nakache Toledano, ou encore L'école buissonnière de Nicolas Vanier. Vous êtes aussi la voix française de Mulan. Et vous êtes, je vous laisse le dire.
Ah, trop bien.
Ouais. Si, vous êtes ouais.
Valérie Carcenti.
Oui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
On essaye de gagner un public plus jeune, c'est pour ça qu'on a parlé de la voix française de Mulan.
Mais très bien.
Mais quand on a eu Jean-Pierre, il y a des gens d'une génération d'aujourd'hui qui ont dit « Ah mais c'est Mufasa !» Et en fait c'est la voix dans Le Roi Lion, moi je ne savais pas du tout. Mais
bah, voilà. Il a une voix magnifique Jean-Pierre.
Comme vous.
Moi j'ai fait un autre dessin animé que j'adore, c'est Daria, la série Daria, ah, qui est une série américaine très trash.
Daria l'exploratrice.
Non, pas du tout.
Absolument pas.
C'est génial Daria, moi je
c'est
connais.
C'est génial Daria, c'est une petite héroïne d'ailleurs. Qui est un peu qui
elle
parle
très
de la
cynique,
mort,
ouais.
Hyper cynique, et elle a une sœur qui est complètement crétine et que je doublais. Je suis beaucoup amusée à faire ça.
Ah, oui. Moi, je connaissais pas, c'est une découverte. Et Valérie Carcenti, on peut vous voir en ce moment au théâtre dans une pièce qui s'intitule Les Inséparables, une pièce de Stéphane Archinard et François Prévost-Légoni dans une mise en scène de Ladislas Chola. C'est au théâtre Héberto jusqu'à la mi-mai pour l'instant. Et Alex Vizorek est allé vous voir.
Qui c'est qui est allé vous voir? C'est moi évidemment.
Qui c'est qui s'y est
collé? Oh non, c'était un grand plaisir. Non, parce qu'on est dans le quartier de Montparnasse, un peintre très à la mode aujourd'hui, Didier Bourdon, rentre dans un atelier d'artiste qu'une de ses fans, pense-t-il, lui a légué. Une dame assez âgée, dont on apprend le décès, c'est vous. Mm-hmm. Sauf qu'il faut remonter toute l'histoire familiale de ce peintre pour constater que, en fait, c'était quelqu'un qui a, de près ou de loin, appartenu à sa famille. Je ne sais pas jusqu'où, c'est toujours compliqué avec les pièces, jusqu'où on peut dire, jusqu'où on ne peut pas dire.
En tout cas, il y a une double temporalité. C'est ça. En fait, en remontant dans les années 50, on comprend le lien entre cette femme qui lui lèguera 50 ans plus tard cet atelier. Et elle lui lègue ce lieu, mais elle lui lègue surtout son histoire, en réalité. Elle lui permet d'avoir accès à sa véritable histoire.
Elle le résume mieux que vous, hein.
Ouais,
mais c'est... Mais en même temps, je joue depuis un petit moment.
C'est vrai qu'elle a eu le temps de l'occasion de bien le comprendre.
Comme Alex, il a dormi la moitié de la pièce.
J'avais vu les années 50. Non, non, c'est l'appartement tourne et c'est très joli parce que donc Montparnasse où on voit la tour de temps en temps, bien on ne la voit plus, on sent qu'on est dans une autre temporalité. Et Didier Bourdon, lui, joue les deux personnages. Ouais. Il joue son propre grand-père.
C'est écrit comme ça.
Exactement.
Il joue son propre grand-père dans les années 50 et il joue donc,
donc
le petit-fils qui hérite de
l'atelier. Cette femme que vous êtes
exactement.
Vous, qui est une artiste peintre dans le Montparnasse de ces années-là, du Select, du de la
des années 50, pardon, l'école de Paris, qui a immigré. C'est une Russe blanche donc qui a immigré dans les années 1910 et qui représente la peinture à cette époque, c'est-à-dire c'est difficile. On n'en vit pas forcément très bien, même c'est vraiment difficile. Quoi.
Mais on croise des Giacometti, des
photos. Ah ben oui, elle est, c'est une contemporaine de Giacometti, de Picasso. Elle est à leur table. D'ailleurs, la première scène, elle dit que son amant, qui est un grand banquier, qui lui est très riche, l'a enlevée comme une petite grue. Il l'a enlevée alors qu'elle était en train de déjeuner avec Giacometti. C'est quand même plus intéressant. Voilà, ça commence comme ça.
Et c'est ce qui plaît à ce grand-père, qui lui est financier. Il est nul en peinture.
Normalement, ils auraient pas dû se rencontrer. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement la différence sociale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme de devoir qui ne s'est jamais rien autorisé à part son devoir et qui tout d'un coup tombe fou amoureux d'une femme libre, indépendante, artiste, qui ne veut pas de son argent et elle va le révéler en fait. Elle va le révéler à l'amour.
Tellement opposé à lui.
Totalement.
Ou peut-être qu'elle révèle des choses de lui qu'il ne soupçonnait pas. Parce que pour finir, il a réussi à transmettre cette passion de l'art à son petit-fils, qui est devenu peintre, opposition au grand-père banquier.
Oui, enfin, c'est une transmission qui se fait malgré soi. Je pense qu'on a tous ça dans nos histoires. On le découvre à un moment ou pas. Mais en fait, on hérite de choses. On ne peut pas savoir de quoi on hérite. On n'en sait rien, finalement. Pourquoi, tout à coup, on est ému par une musique particulière, une couleur, une peinture, un être? Pourquoi on est attiré? Et en réalité, on est fait de tout ce dont on a hérité. Et là, dans cette pièce qui est magique, et c'est en ça que la pièce m'a bouleversée quand je l'ai lue, c'est que c'est une grande histoire d'amour, mais c'est une histoire de transmission, réellement. Et aussi, quand même, je trouve que l'histoire, ce qu'elle raconte, c'est que c'est important de savoir qui on est.
Et d'inspiration.
Pour arriver à vivre. Et d'inspiration,
Parce qu'il perd son inspiration et il la retrouve au fur et à mesure.
Ouais.
Et là, je vous laisse aller.
Et voir bientôt. Les Inséparables, exactement. Avec donc notre invité, Valérie Kersanti, et aussi Didier Bourdon, Thierry Frémont, Pierre Yvebon et Élise Diamant. C'est à Héberto jusqu'au 13 mai, du mercredi au samedi, 21h, le samedi à 16h30 et le dimanche à 16h. Et Valérie Kersanti est avec nous jusqu'à 18h. Il y a aussi Clara Dupont-Mono.
Qui a parlé de la mort.
Il y a Constance.
Qui a parlé de la mort.
Mort. Et il y a Guillaume Meurice.
Et on coup. Écoute donc Kurt Cobain.
Nirvana, Come As You Are, dans cette émission sur France Inter. Venez comme vous êtes. Et bien sûr, arrêtez de rire, c'est vrai. Par Jupiter, il est 17h20 à Fraser. Oui, dans le Perche. Le cri d'oiseau. C'est dans le Perche, c'est là où Valérie Kersanti a commencé à développer le goût du théâtre en lisant, en lisant, en lisant, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire.
Et oui, l'ennui, ma bonne dame.
Et dans le Perche, il est 17h21, comme à Paris, sur France Inter. Et pour entourer Valérie Kersanti...
Bah, une table de gens vivants, que sont Constance, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono.
Et bien sûr, l'information, qui n'est jamais loin.
Et qui aujourd'hui était plutôt généreuse.
Il y a un thème, attention.
Une autre bière. Le journal de presque 17h17.
Et donc, je suis, au nom du gouvernement de la France...
Un alcoolique notoire.
Et on commence par les titres.
Ivre, virgule, Jean-Vincent Placé, importune des femmes et fini en garde à vue.
Une brève en titre numéro numéro 1, c'est le plus beau jour de ma vie, la consécration absolue.
Europe Écologie Les Verts, encore Cécile Duflot quitte la politique pour diriger Oxfam.
Oui, on peut saluer la cohérence d'une écologiste qui va se recycler elle-même.
Est-ce qu'il y aura malgré tout des brèves?
Eh oui, mais comme grâce à Jean Vigne, c'est une brève pour la partie du journal, je vais traiter dans les brèves de la dangereuse chute du PIB du Bangladesh qui n'est pas sans retombées théologiques pour la région.
Des retombées théologiques.
Oui, c'est-à-dire que l'évolution des religions va évoluer parce que... Ah bah j'ai bossé.
D'accord. Bon, alors, on commence donc...
Benjamin s'en passe.
Oh, quel flair vous avez.
Hein, oui, je suis... Bah, la formation, c'est ma spécialité. Ce pauvre homme passait de l'ivresse du pouvoir à la cellule de dégrisement.
Et il aurait d'abord insulté des femmes dans un bar car elles auraient refusé de danser avec lui contre rémunération.
Même quand il les paie, elles veulent pas. Hein. Alors, on dira ce qu'on veut, mais Denis Baupin avait l'élégance de ne pas proposer d'argent.
Et ensuite, Jean Vigne saurait proférer des injures racistes au videur d'un bar.
Oui, mais bon, s'il est raciste, on peut l'être, du coup, nous.
Putain,
les Asiates, ils tiennent pas l'alcool, excusez-moi, mais...
Jean-Vincent Placé aurait dit au videur d'un bar qui tentait de l'en faire sortir, on n'est pas au Maghreb, ici, je vais te renvoyer en Afrique, moi.
Oui, comme quoi ça laisse des traces d'avoir participé au gouvernement de Manuel Valls.
Et justement, hier, sur Twitter, oui, Manu a tenu à rendre hommage à un grand homme, je cite son tweet. Oui. 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, ne jamais oublier la grandeur de son combat et la force du mouvement qu'il a contribué à soulever.
Même si on va pas se mentir, dans le mouvement de Martin Luther King, ça manquait quand même pas mal de white, de blancos.
On repasse au vert.
Oui.
Cécile Duflot quitte la politique pour Oxfam France.
Oui, quand Jean-Vincent Placé va apprendre qu'à Oxfam, on avait l'habitude d'organiser des partouzes avec des prostituées, je pense qu'il va la rejoindre.
Cécile Duflot va même prendre la tête d'Oxfam France.
Ah, mais ça, c'est l'habitude, elle a déjà pris la tête de pas mal de monde, hein, avant pour s'entraîner.
Politique toujours, Édouard Philippe a rendu un projet de loi de réforme de la Constitution. Il y a l'introduction de 15% de proportionnel.
Oui, alors évidemment, pour le mouvement de Benoît Hamon, ça ne change pas grand-chose, hein, puisque 15% de zéro, eh bien, ça fait toujours zéro.
International au Brésil, la Cour suprême a donné son feu vert à l'incarcération de l'ancien président Lula.
Les magistrats français, c'est possible, on peut le faire.
People, invité du 7-9 sur France Inter, Françoise Hardy s'est exprimée à propos du mouvement MeToo.
Derrière chaque homme qui se comporte mal, il y a une maman qui soit n'a pas pu être là, soit n'a pas pu aimer, soit en tout cas n'a pas su transmettre, si elle était là, les valeurs qu'il fallait transmettre à son enfant.
Oui, donc c'est la maman de Jean-Vincent Placé qu'on va mettre en garde à vue. Passons à ce phénomène qui, depuis quelques semaines, sévit aux États-Unis. C'est un nouveau jeu chez les ados.
Ça s'appelle le Condom Snorting Challenge. C'est un jeu très dangereux qui consiste à aspirer un préservatif par la narine et à le faire ressortir par la bouche.
Voilà, à ce stade-là, s'il y a un accident, je pense qu'on peut parler de sélection naturelle.
Effectivement, voilà. Des brèves.
Et oui, des brèves. Un enfant trouve une arme lors d'une chasse aux œufs. Ah, je me suis renseigné, apparemment, c'est celle du lapin au chocolat qui a tué le chasseur en chocolat.
La dernière.
Oui, à Lyon. Un homme agressé par ses 4 maîtresses lors d'une expédition punitive. Ce qui me permet de rappeler cette règle d'or, hein, de l'extra-conjugalité, ne jamais se faire prendre.
Merci Alex Vizorek et sachez que toutes ces brèves et ces informations et cette rigolade, on les entend jusqu'au Sud-Soudan.
C'est pas vrai.
Si, alors à l'occasion de l'émission de Fabienne Synthès ce soir à 18h, une spéciale sur le Sud-Soudan, j'en profite pour saluer l'équipe de MSF là-bas à Old Fangak et particulièrement à Jean Reis, chirurgien.
Il nous écoute.
Et à Hakim, son anesthésiste, il nous écoute depuis le Sud-Soudan très régulièrement. Mmh. Alors il sauve les vies l'après-midi et puis il écoute des conneries le soir et on pense très très fort à eux, on les encourage. En attendant, c'est Valérie Carcenti qui est avec nous. Elle joue au théâtre Héberto Les Inséparables, aux côtés de Didier Bourdon, de Thierry Frémont, de Pierre-Yves Bon et de Élise Diamant. On va y revenir tout à l'heure avec un sujet sur Picasso, justement. Et d'abord, ce sujet, le gouvernement qui prépare une réforme dont la principale mesure sera de réduire de 30% le nombre de députés, ce qui signifie que l'Assemblée doit se préparer à un plan social. La droite est contre et dit que les Français seront sous-représentés et donc coupés de leurs élus. En attendant, les parlementaires en profitent à fond.
S'il vous plaît, silence ! En toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentille à la cantine à midi. Voilà. Et maintenant, nous ouvrons la séance sur des propositions de loi de chacun. Bon, député écolo, qu'est-ce que vous avez à dire ? Allez, manif au train, là, on a la dalle.
On propose plus voiture dans Paname. Plus voiture dans Paname, la capitale.
Ah bon ? Même les voitures de fonction.
D'accord, mais pas les voitures de fonction. Non.
Adopté. Bon, messieurs, on va adopter le projet de loi visant à augmenter le salaire des députés.
Pour la France, la France.
Adopté.
C'est un sketch du Palma Show. Alors on va tout de suite voir si c'est embêtant de réduire l'Assemblée de 30% de ses députés. Attention, est-ce que vous connaissez le nom de votre député, de celui qui vous représente? Voilà.
Oui.
Eh ben donc très bien. Sujet suivant.
Moi c'est Mounir Majoubi, mais comme il est secrétaire d'État, ça doit être son suppléant ou ses suppléants. Ça compte
voilà,
ou pas?
Voilà. C'est pas mal déjà. Valérie Carcenti. Donc dans cette réforme, une des mesures phares, outre 15% de proportionnel, c'est de réduire d'un tiers le nombre de députés. Quelle image vous avez des parlementaires? Est-ce que vous avez une image celle qu'on nous renvoie dans l'humour de gens qui dorment ou de...
Non, je
comment
pense
vous
pas
les
que...
voyez?
Non, je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des gens très sérieux et des gens qui travaillent quand même. Sinon, ce serait les caricaturer bêtement, je pense. Voilà.
Après,
ça vous faites jamais. Mais après, il y a évidemment des avantages et des privilèges qui sont difficiles à comprendre pour nous. Mm-hmm. Voilà, ouais. C'est compliqué. Mais je sais pas si je vais être très intéressante sur ce sujet, vous voyez.
Le but, c'est de discuter, discuter à la bonne franquette. Gérard Larcher, lui, il a déjà prévenu que la France serait le pays d'Europe qui aura le moins de députés par nombre d'habitants.
Alors, oui, j'ai entendu qu'il y avait j'ai vu que c'était la Russie qui était un tout petit peu.
Oui, voilà. On va être, alors pas au niveau de la Russie,
pas au niveau
parce
de
que
la
très,
Russie
très
quand
grand,
même,
mais
juste avant. Juste
dans
à côté.
Le ratio, c'est pas
la
mal.
La Russie,
oui.
Il y a un député pour 320 000 habitants.
Pour l'instant, il y a un député pour 174 000 habitants en France et après cette réforme, avec 30% de moins de députés, ce sera un député pour 116 000. Et donc, les détracteurs de cette réforme disent que ça risque de déconnecter les élus de la nation en les éloignant de leurs électeurs. D'où cette question, Valérie Carcenti, quand est-ce qu'il vous arrive d'être connecté à votre élu? Est-ce que ça vous arrive?
Mais quand? Voilà, c'est ça, quand?
Vous aimeriez qu'il vous passe un coup de fil de temps en temps pour savoir s'il fait bien son travail? Est-ce que vous êtes fier de ce que je fais pour vous?
Voilà, est-ce que vous êtes... Voilà, bien sûr. On a un vrai échange, un vrai dialogue.
Donc on se rend bien compte que cette réforme, on en a...
Ouais,
c'est un peu symptomatique parce que comme les députés de La République En Marche, là, ils servent juste à signer des textes, ils servent à rien en gros quoi. Donc ils seraient, non mais c'est
non.
vrai, ils seraient, ben là en ce moment,
Clara
oui.
défendait La République En Marche.
Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc ils seraient 200 de moins tant qu'ils sont la majorité, ça va, Macron, ça lui va, donc ça va dans le sens de la marche.
Macron, tant qu'il est tout seul, ça lui va, je pense.
C'est ça. Tout seul.
Bon, je pense qu'on a bien approfondi le sujet.
Mais
et
c'est
il est
mais
donc
ça que vous étiez venu dans l'émission, Eric Arsenault.
Mais moi j'étais venu pour ça. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça apporte, parce que là la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on va y perdre. Mais qu'est-ce que ça apporte de...
Bah, des économies.
Ce sont des économies.
Essentiellement.
Oui. Mais c'est vrai que le revers, le risque aussi, c'est qu'à un moment où il y a les territoires quand même, où la République, qui se sentent en tout cas abandonnés un peu par la République.
Où les trains ne vont plus.
Par exemple, mais bien sûr, où les services publics n'ont plus un orteil dans ces territoires-là, et ça compte pour les gens. Si on diminue leur représentation quelque part, c'est pas un très bon signe envoyé pour ces territoires. Alors ça fait des économies en effet, mais il faudra encore qu'on les chiffre. Hein. Je ne sais pas si on a vu passer beaucoup de.
Est-ce que ça va faire
Valérie Carcenti a raison. Combien
voilà, qu'est-ce que ça rapporte?
Ça s'élèverait à combien exactement? C'est aussi aux citoyens de se faire
qu'est-ce
une
qu'on
idée.
Qu'on gagne ici. Donne les chiffres.
17h30 sur France Inter. Et en attendant le plan social à l'Assemblée, il y a d'abord Constance qui est avec nous.
Oui. Alors aujourd'hui, c'est la journée de l'entretien des tombes. Ouais. Et c'est familial cette journée,
ouais.
On l'adore, hein. Cœur avec les doigts, merci d'exister, journée de l'entretien des tombes. Merci de nous rappeler que nous allons tous crever, tous, sans exception. Même les gens qui ne vieillissent pas comme Ariel Dombal. Chaque année dans le monde, entre 50 et 80 millions de personnes meurent. Tous les 12 jours, l'équivalent de la population de l'Allemagne décède. On rigole bien cet après-midi sur France Inter, hein. On se fend la poire. Et puis c'est pas fini, je leur mets une couche, comme le disait si bien ma grand-mère incontinente. Naître, c'est commencer à mourir. Vivre, c'est pourrir tous les jours un petit peu plus. Et même si nous pensons nier notre mortalité en faisant en sorte que nos vies soient remplies comme des putes au petit matin, eh bien ça ne change rien au fait que nous allons tous disparaître et pour la plupart sans laisser de traces à part dans les water. Si la joie de vivre était une sucrerie, je pense que cette chronique ne laissera de caries à personne. Voilà.
Elle est complètement folle.
Quand on y pense, la mort, je veux dire, si elle n'existait pas, et il n'y aurait pas de religion, Il n'y aurait pas de promo chez Roc Éclair sur les plaques granit, bord sculpté, motif bronze, pied métal avec emplacement pour message. Wow. Et il n'y aurait pas d'héritage de Johnny non plus.
Ça, c'est vrai.
Punaise, mais ça change tout, en fait. Moi qui croyais que la vie, c'était un grand toboggan et la mort, genre un chouette bassin dans lequel on atterrissait pour le dernier plouf, j'ai soudainement l'impression de ne plus savoir nager dans le pédiluve. Ce qui est gênant avec la mort, c'est que quand on commence à vouloir la définir, elle nous embrouille, parce qu'elle donne à la fois un sens et un non-sens à l'existence. Ah putain, ça recommence. Ça me pique dans la tête, mais quand je me pose trop de questions, quand je réfléchis trop, il faut que je regarde un épisode de Plus belle la vie. Non. Je vais être courageuse, serrer les dents pour aller au bout de ma chronique en bon petit soldat de la blague que je suis. Mais qu'est-ce que ça veut dire, journée de l'entretien des tombes? Enfin, je veux dire, même une fois crevé, on peut toujours pas être peinard, faut faire le ménage encore et toujours, faire la poussière une fois redevenue poussière, pour éviter d'être froissé dans son cercueil, rien de tel qu'un bon fer à trépasser. Voilà. Donc, c'est un jeu de mots extraordinaire. Merci Constance, bravo, bravo, c'est du travail, c'est tout, voilà. J'espère que tout le monde est mort de rire.
Oui. Ah,
il avait dit que j'allais utiliser des bruitages. Je suis contente, voilà. Donc, c'est un festival de rigolade et de bon
monde. C'est vrai.
Moi qui pensais que la mort, c'était un sujet sérieux, ben, j'étais bien loin de la vérité. De toute façon, dans la vie, tout est une question de point de vue. Car comme le disait si bien Guillaume Apollinaire, demandez à une chaise « qu'est-ce qu'un homme ?», elle vous répondra « c'est un cul ».
C'est la fin de cette chronique.
C'est ma chute. Hein.
Mais c'est la chute de Guillaume Apollinaire, c'est beau.
C'est quand même classe. Il était rigolo, Guillaume. Tu sais quoi, j'ai lu plein de citations de Guillaume Apollinaire et il était très très drôle. Il disait beaucoup de gros mots.
Oui.
Voilà.
C'est culturel.
Mais tu sais, le silence après Constance, ça reste du
Constance. C'est du Guillaume Apollinaire.
Je le laisse filer. Merci, Constance. Valérie Carcentier est entre nos mains. J'allais dire entre nos mains. Mais c'est un peu vrai. Avant d'aller au théâtre, au théâtre Héberto, bien sûr, pour jouer Les Inséparables. Et puis le soir, elle est sur M6 dans Scène de ménage, tous les jours à 20h25. Allez, les amis, un petit peu de musique. C'est Loud qui chante 56K. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Merci, Djoubaka.
Keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous disiez des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speeda. Hello, téléphone on whoever keeper. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse. Yes. On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LRE pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonine. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat a game paid, game faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore, sure. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que j'sais faire, c'est faire des records, pis des faire des records. Oh my god. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques? Avec ce genre de flow que mes flots paient chapeau pour. But I keep the game on lock, and that's childproof. I'm back on my bullshit, entouré de des axes chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, mais la new cheese. Ils pensent tout ce que j'suis ricain quand j'leur parle de où j'vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un quart de paire d'os. Ferme le hublot. La nostalgie au perdant, mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé.
I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier contre le papier, jamais les mêmes. We eat a game paid, a game faded. What I call self-made, self-medicated.
Vous écoutez France Inter par Jupiter. Il est 17h37. Nous sommes en compagnie de Valérie Carsenti qui est au théâtre Héberto en ce moment dans Les Inséparables. Et autour de la table pour le...
Mais je vois Constance qui a déjà bossé, Clara Dupont-Bono qui se prépare à bosser c'est à son tour.
C'est moi ?
Oui.
C'est moi. Bah, je suis allé ce matin à l'ouverture du salon des seniors, Porte de Versailles, une sorte d'immense agence matrimoniale pour Alex Vizorek. C'est vrai que Michel Thor là-bas, c'est la découverte de l'année. Hein. Clairement, c'est le bal des débutantes, c'est pour vous dire l'ambiance. Alors, je suis allé là-bas parce que Macron, il a quand même pas été tendre avec les vieux ces derniers temps. Déjà, il en a mis un ministre de l'Intérieur, hein, Gérard Collomb, le mec qui doit gérer les flics de France, qui a déjà du mal à gérer sa vessie, c'est pas très sympa. Et puis les vieux, quand ils étaient jeunes, on leur a fait payer la vignette automobile en leur disant voilà, c'est pour les vieux. Et puis là, comme ils sont vieux, Macron, il leur augmente la CSG en leur disant ça, c'est pour les jeunes. Donc en termes de foutage de gueule, on est pas mal. Hein, on est quasi au même point que les rapports entre les chroniques de Clara et l'actualité. Et puisqu'on parle de Clara, donc revenons aux seniors. Les seniors que j'ai rencontrés. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de Macron ?
Bah pour l'instant, il m'a pris 1,7%. Je ne le remercie pas trop.
Bah oui, oui. Non,
j'attends que ça revienne. Mais moi, qu'il fasse toutes les réformes. Il y en a bien besoin.
Hein, ah oui, vous le soutenez quand même, ouais.
Il faut qu'il tienne. Et puis la CGT, moi qui ai travaillé 43 ans, j'ai toujours appelé le cancer général du travail.
Voilà, moi j'aime bien quand les arguments sont modérés comme ça. Le cancer général du travail. Même Wauquiez, il n'avait pas pensé à celle-là. Alors c'est vrai que si c'est un cancer de la prostate, en ce moment, Macron, il fait quand même les dépistages au fist-fucking. Parce que voilà, la question, c'est est-ce que quand même, il n'est pas en train de piquer du pognon aux retraités, notamment aux petites retraites.
Mais non, il va me rembourser, qu'il a dit, à partir d'octobre.
Ah c'est bon, il va vous rembourser, c'est sûr ça ?
Non, c'est pas sûr.
Non, c'est pas sûr du tout. Hein, moi, pas pour casser les rêves des gens non plus, mais là, ce qui se profile, c'est pas Disneyland. Hein. Niveau rêve, on serait plutôt du côté des frères d'Ardennes. Mais la question, c'est est-ce que les seniors sont combatifs ?
Non, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Maintenant, c'est tu bosses et tu gagnes. Si tu bosses pas, tu gagnes pas. C'est simple.
Je vous sens un peu résigné.
Ouais. Tu as peur, bon, maintenant, vous savez, j'ai rien d'autre à faire que d'être résigné un peu. Hein.
C'est vrai que vous avez du temps pour être résigné.
Oui, j'ai du temps pour être résigné.
C'est vrai qu'il peut se lever le matin pour être résigné, disons de 9h à 11h. Hein. Bon, après, il y a Motus. Hein. Et puis après, il peut être résigné. Après, il y a Jean-Pierre Pernaut. Puis après, voilà, résignation de 14 à 18. Après, question pour un champion, résignation. Ouais. Et puis on se couche. Beau planning de résignation. Mais des vieux qui n'ont pas leur langue dans leur poche, il y en a aussi. Et je vais vous dire, j'en ai rencontré un. Vous savez, j'ai quand même interrogé pas mal de gens ces dernières années. Mais là, je dis attention. Alors, bah, déjà, je l'ai repéré parce qu'il était en train de gueuler sur un syndicaliste qui distribuait des tracts. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais il me parle de mai 68. Quelle connerie.
Ah ouais, vous aimez pas mai 68, vous ?
Ah ben, j'étais pas en France et c'était une bonne chose. Sinon, j'aurais cassé la gueule à tous ces cons.
C'est vrai ?
Oui, oui. Parce que moi, je peux pas les voir, c'est tout. Moi, j'étais jeune à l'époque et j'étais pas d'accord avec tous ces cons.
Ah, vous étiez plutôt du côté du général, alors ?
Je n'ai rien à foutre du général.
Vous comprenez pourquoi il m'a immédiatement plu. À une sorte de coup de foudre, je me suis dit qu'on allait bien s'entendre. En plus, il a un petit peu la voix du professeur Choron, c'est rigolo. Alors lui, il est ni mai 68, ni général de Gaulle. Mais alors, de quel côté il est ?
Je suis mon côté à moi. Je suis pas là, je suis du nombrilisme, comme tous ces cons qui sont là.
Mais pourquoi vous êtes là, vous, alors ?
Pour moi-même.
Ah ben oui, c'est ça, d'accord.
Comme les autres.
Ah bah oui,
comme vous, d'ailleurs, vous êtes là aussi pour vous.
Oui, c'est sûr. Et pour les rencontres. Moi, j'aime avant tout les rencontres, puis c'est là, je m'en souviendrai. Voilà, poursuivons.
Depuis que je suis né, je subis les conneries des autres. Il y a ceci, obligation et interdiction, et vous faites ceci. Monsieur, nous sommes lobotomisés, nous n'avons même pas le droit de penser.
Mais là, vous êtes venu chercher quelque chose ou vous
non,
renseignez sur quelque
chose ?
Je
suis curieux. Je suis venu pour perdre mon temps, parce que les vieux n'ont que ça à faire.
Oui, voilà, là, ça et la résignation, ça on a compris. Et aller faire leurs courses le samedi après-midi, lorsqu'ils ont toute la semaine. Donc il était là, il était au milieu de tous les stands qui proposent des trucs pour les vieux, quoi. Et allez savoir pourquoi, il y a un type qui est arrivé et qui s'est dit, tiens, lui, c'est un bon mec à qui je vais pouvoir vendre quelque chose.
Non, mais je vous explique maintenant, vous avez un truc extraordinaire. Une web TV pour les seniors, pour du bien-être,
mais monsieur, je pense à une
de la culture. Vous êtes quelqu'un de cultivé.
Je vais la semaine prochaine au Collège de France suivre des cours.
Il y a mon ancien prof, Eric Orsena.
Orsena, c'est pas celui que je préfère.
Oh, ben, je sais pas pourquoi. Ça m'étonne pas.
Mais qu'il aime rien.
Pas pourquoi. D'un stage aussi, il va pas l'adorer, Eric Orsena. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que ce brave monsieur foutait là ? C'est quand même la question. J'avais une thèse d'ailleurs.
Est-ce que vous n'êtes pas venu ici pour envoyer chier tout le monde ?
Non, monsieur, c'est vous qui m'agressez. Vous faites peut-être perdre mon temps là.
Moi, j'aime bien les gens qui râlent.
Je râle pas.
Ah, vous râlez pas là ?
Non, je ne râle pas. Je dis que je suis pas.
On avait l'impression, c'est pour ça.
Je suis pas d'accord avec ce qu'on me propose. Alors, en plus, il me dit que c'est gratuit. Monsieur, dès que c'est gratuit, c'est qu'on est les produits.
Eh ben voilà, ben je suis désolé, je l'aime bien. Je l'aime bien quand même. Alors là, c'est pas qui sont le produit, les vieux. C'est qui sont soit les clients, hein, soit on leur pique leur fric, soit on les laisse crever dans les EHPAD. Peut-être qu'ils ont juste besoin de considération, mais bon, ça fait pas augmenter le PIB.
Guillaume Meurice, merci.
Il va venir voir la pièce, le petit monsieur, il a dit.
Ah, oui, ben oui, j'ai hâte de voir ses commentaires.
Il m'a laissé un petit mot sur Biéréduc.
Valérie Garcenti, en effet, est avec nous avant de filer sur les planches. Et on va aborder cet autre sujet avec vous. Ce sont les magasins Apple qui accueillent les scolaires.
Apple.
Dès 5 ans, pour des sorties scolaires pédagogiques où les enfants apprennent à programmer. Et ils repartent avec un joli t-shirt de la marque et un bracelet clé USB au poignet. Vous fermez les yeux déjà en respirant très fort, je vous vois.
Je suis très en colère.
Comme le montre un reportage du 20h de France 2 qui a été diffusé mardi soir. Sinon, moi, j'en croyais pas mes yeux. J'avais lu des articles sur le sujet, mais avant de le voir, je n'y croyais pas. Et oui, vous savez, c'est la sortie scolaire du Nouveau Monde.
Monsieur ? Oui, vous, là.
Oui ?
Ce que vous faites est indigne.
Indigne ?
De quoi vous parlez exactement ? Je comprends pas.
On parle de votre petite expérience pédagogiste. Hein, c'est immature, irresponsable et c'est scandaleux.
Tout
quoi.
À fait.
Mais c'est ça les bobos. Aucune autorité, c'est l'enfant roi.
Et voilà, déconstruction, dérision et destruction de nos valeurs, monsieur.
Oui. C'est un extrait de C'est quoi cette famille ? Un film de Gabriel Julien Laferrière. Alors, Valérie Garcenti, si l'un de vos enfants vous annonce que demain son instituteur l'emmène faire une sortie programmation dans un magasin Apple, qu'est-ce qui se passe ?
Bah déjà, je signe pas l'autorisation de sortie déjà, c'est la première chose que je... Ouais. Voilà. Et puis je monte au créneau, mais je trouve ça dingue, je trouve ça fou, ça me rend folle. Ça me rend dingue.
Que... Parce que c'est des profs là de pas accepter ça aussi.
Bah oui, mais ouais. C'est.
Moi, ils ont une Apple Watch en fait.
Non, mais c'est dingue, c'est surréaliste quoi. Déjà.
Surtout que ça va complètement à rebours du principe de neutralité d'un enseignant. Il y a quand même un code de bonne conduite qui dit qu'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ne peut pas faire la promotion d'un objet commercial.
Bah, aucun objet commercial. Et là,
mais c'est pas de la promotion d'objet commercial.
Ouais, c'est ça en fait.
Non, ils apprennent à programmer les enfants.
C'est ça.
Après, on leur donne une tablette Apple dans la main, mais ah oui, mais non.
Je trouve ça scandaleux, mais je pense que là, on va l'interdire. Mais que ça ait pu exister, je trouve ça fou.
Alors justement, est-ce qu'on peut l'interdire ? Question, l'éducation nationale a récemment signé un contrat, un accord avec Microsoft, que la CNIL est d'ailleurs en train de regarder, voir si c'est possible ou pas. Mais à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, il y a un accord qui a été conclu parce que les écoles ont besoin d'ordinateurs, de logiciels. Donc est-ce que c'est sans doute pas une...
Si, certainement, oui. C'est un donnant-donnant,
sûrement. Une réplique, voilà. Bien
sûr. Mais ça montre aussi que, dans ces cas-là, le ministère n'a pas les finances, ou en tout cas ne donne pas les budgets pour voir les classes en matériel informatique.
Pour avoir un logiciel libre.
Ouais, c'est bien qu'il y a, en plus, il y a vraiment... Il y a vraiment des écoles qui sont fournies en matériel et d'autres pas du tout, qui sont complètement abandonnées. Ça, c'est certain. Mais après... après, il faut poser des limites au donnant-donnant. Enfin, c'est pas possible, quoi.
En fait, c'est une sorte de privatisation. Je pense que ce qui choque beaucoup, c'est que c'est une privatisation d'un secteur public et qui est fait un peu de...
En cas d'une délégation, oui, on délègue à une marque le soin de s'occuper des enfants une journée.
Donc, c'est une vitrine formidable pour la marque, finalement. Ouais. C'est un coup de pub.
Valérie Carcenti, ben, ce qu'on appelle les GAFAM, hein, avec M au bout, parce qu'il y a les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, elles sont un peu en embuscade dans les écoles. Vous êtes vigilante à ça, vous regardez?
Oui, je suis vigilante, mais j'ai deux garçons. Moi, j'en ai un qui va avoir 16 ans et l'autre 12. C'est hyper compliqué. Hein.
Ah, et ils sont confrontés aux marques
tout le temps. Là, il y avait... Alors, je ne sais pas si je vais retrouver le nom, mais le samedi dernier ou dimanche dernier, il y avait une grande vente de chaussures ou je ne sais pas quoi, de marques. Ça ne vous dit rien, ça ?
Il y avait une... Hein, on n'y était pas.
Vous n'y étiez pas ?
Non. Quoi, dans l'école ? Non, quand même pas.
À Paris, dans Paris, il y avait une grande vente de marques Nike, de chaussures, etc.
Et un outlet, c'est ça ?
Je ne sais pas exactement, mon fils me l'a dit, mais j'ai oublié. Et en fait, il fallait déjà payer 10 euros pour avoir le droit d'acheter. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes de payer 10 euros pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc on leur fait croire que c'est un privilège de pouvoir acheter. Et ensuite, ils voient des chaussures qui sont, mon fils m'a dit, à 250 euros.
Enfin, là, ça fait 260 du coup.
Non, mais c'est horrible.
Mais on est mieux en marche dans ces choses.
J'en ai parlé. J'en ai parlé avec une amie. Tu te rends compte que déjà, on te demande de l'argent pour avoir le droit d'acheter. Je dis, c'est dingue, quoi.
Et puis pourquoi, comme nous, ces gens n'iraient pas voir Tartuffe par la compagnie du Brigadier oui, Rouge s'emmerder
Parce qu'ils peuvent le voir sur un écran.
Non, non, mais si l'école n'emmène pas voir des classiques de théâtre ou n'emmène pas. Moi, j'avais été à des répètes d'opéra à Bruxelles et ça.
C'est important de dégoûter les jeunes du théâtre très tôt. C'est un problème si on le fait plus.
Quand vous étiez à l'école, vous étiez dans le Perche.
Oui.
Vous ennuyez un petit peu, donc vous avez énormément lu. Il y avait des sorties scolaires.
Il y avait effectivement des pièces de théâtre horribles dont je me souviens, Amphitryon, ils ont ennuyé à mourir.
Qui venaient dans votre
mais
coin pour jouer.
Voilà, mais il y avait du théâtre à la télé, il y avait plein de choses. Mmh. Il y a aussi des choses. Attendez, il y a plein de choses aujourd'hui.
Oui, oui.
Enfin, il y a un accès à la culture extraordinaire hein, pour les enfants, les jeunes, les ados, tout ça. Faut arriver à les guider pour les sortir des écrans. Mais ceci étant dit, nous aussi, on est accro aux écrans. Il n'y a pas que. Hein. On parle toujours des enfants, des ados, mais c'est pas vrai. Nous aussi, on est totalement accro.
Et bien joué, Amphitryon. C'est une pièce très très drôle.
Mais c'est vrai. Amphitryon 38, très...
non,
il a agacé.
Je parlais de celle de Molière, moi.
Ah oui. Eh ben, c'est.
Ah bah elle est très très
c'est
drôle.
C'est celle de Molière.
Ah bah elle est très très drôle.
Ouais
bah
ça bah, vous voyez pas de même chose.
C'est ce que j'ai dit, bien joué.
Valérie Carcenti, en face de vous, il y a Clara Dupont-Monod qui a une lecture à vous proposer qui on pense elle va vous plaire.
Pas du niveau d'Amphitryon mais vous allez voir parce que l'actualité c'est aussi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui vient de refuser alors qu'il avait accepté d'intégrer 16 000 réfugiés soudanais et éthiopiens.
Ça, voilà.
Alors Benjamin, puisque tu nous écoutes et que tu ne rates pas une émission, je le sais, j'ai un livre pour toi. Je ne l'apprends à personne, c'est que la littérature a un sens aigu de la justice. Et elle propose L'archipel du chien de Philippe Claudel. Et attention Benjamin, si tu nous écoutes, tu risques d'être assez scotché. Parce que c'est un livre très fort, écrit en fait avec l'espèce de terrible simplicité des contes. Vous savez, dans les contes, on lit toujours, par exemple, il décida d'abandonner ses enfants dans la forêt. Ou alors, elle se mit à engraisser le petit Hansel pour pouvoir le dévorer un peu plus tard. Et c'est, mais non, mais c'est ça. Et en fait, cette forme très inoffensive dit justement l'offensif. Elle dit des choses très violentes. Et il y a la simplicité qui, en fait, correspond à l'espèce de violence du propos. Et ben, dans ce livre-là, c'est pareil. C'est-à-dire que dans ce conte-là, c'est pas une forêt qu'on a, mais c'est une île qui, vue de haut, a la forme d'un chien avec la gueule ouverte. C'est pour ça que ça s'appelle l'archipel du chien. Et alors, vous vous en doutez, Valérie Carcenti, c'est pas exactement une île avec des palmiers, avec du sable qui aurait la couleur exquise de la chevelure de Charline, c'est-à-dire un blond cendré lumineux, pas du tout. C'est plutôt une île pelée, caillouteuse. La plage est, je cite, faite de galets volcaniques, râpeux et blessants, un peu comme le caractère de certains autour de cette table que je ne citerai pas. Et c'est sur cette plage, un matin, que l'on découvre trois corps. Il y a trois cadavres d'hommes échoués, qui sont des migrants, qui ont tenté de rejoindre le continent et qui se sont noyés avant que la mer ne les dépose au bord de l'île. Et on voit le maire du village qui se tient debout, effaré devant les trois corps, et il décide instantanément. On n'en parle pas, on dit rien, il ne s'est rien passé. Le médecin et le curé sont toujours d'accord avec le maire, donc ils disent d'accord, mais l'instituteur, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, ah ben non, il y a trois hommes là devant nous allongés morts, il faut alerter les autorités et de surcroît enterrer dignement ces hommes. Et à partir de là, tout déraille. Comme si ces trois cadavres avaient agi comme trois projectiles qui sont venus percuter une apparente paix, qui la fendille, qui la brise, et de cette coquille surgit un horrible secret. Et Philippe Claudel vous raconte ça l'air de rien, sans envolée lyrique, sans effet de suspense un peu outrancier, il le raconte simplement, alors déjà il n'y a rien de plus difficile à obtenir que la simplicité, mais surtout ça décuple l'effet cluedo de ce roman, parce qu'évidemment il y a un coupable, et il se trouve sur cette île. C'est le même procédé qu'avait choisi Agatha Christie quand elle a écrit « 10 petits nègres ». D'ailleurs, c'est son livre le plus vendu. Elle avait posé ses 10 personnages sur une île et le coupable est parmi eux. Et elle a fait la même chose avec le crime de l'Orient Express. Ça se passe dans un train, en quelque sorte une île roulante. Il y a pas de... Ben oui, c'est ça. Ah oui. Il y a pas de possibilité de fuite. En fait, c'est l'impossibilité d'une île, pour déformer le titre de Michel Houellebecq. Et c'est ce principe du lieu clos, presque utérin, qui contient en lui les germes du mal. Un peu comme autour de cette table, Valérie Carcenti. Non, mais personne ne soupçonnerait que le plus riche d'entre nous, eh bien, c'est Guillaume Meurice. Justement, celui qui critique ceux qui le sont, quelle incroyable surprise. Méfions-nous des prêcheurs. Mais voilà comment un livre peut ressembler à un appel. Parce que, en fait, cette île, quand on y réfléchit, c'est nous.
C'est nous qui sommes coupés du monde. On vit très tranquillement. Des migrants. Ah oui, des migrants. C'est 30 secondes sur BFM TV. Ça me dit vaguement quelque chose, un migrant. Et Claudel, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, mais voilà des cadavres qui viennent heurter les rivages, finalement, de notre indifférence. Et alors quoi? Et alors nous sommes submergés et nous prenons l'eau. Et il faut se souvenir à ce moment-là que le mot « il », c'est aussi « il », ILS, c'est-à-dire « eux », c'est-à-dire les échoués. Voilà, c'est QFD avec un grand livre, « L'archipel du chien » de Philippe Claudel, est paru chez Stock.
Merci, merci Clara Dupont-Mono.
Ça donne envie.
Ah, c'est formidable.
Oui, vous avez beaucoup, beaucoup aimé. Hein.
C'est magnifique.
Ouais. Okay.
Et d'ailleurs, vous l'emporterez en vacances, Charlie.
Mais bien sûr, je vais le lire.
Sur le refus de Netanyahou, il y a, je sais pas, j'ai un flash, un film qui me revient qui s'appelait « Va, vie et deviens ».
Ah, magnifique. Bah, il faut réussir à ne pas pleurer durant tout le temps que dure ce film.
C'est un film magnifique sur des juifs éthiopiens.
Dans un camp.
Et voilà, et des Éthiopiens chrétiens qui, eux, ne sont pas sauvés, par contre.
Voilà.
C'est un film terrible, mais magnifique. Ouais.
Et voilà le conseil cinéma et le conseil lecture du jour. Valérie Carcenti, parlons du petit-fils de Picasso qui a enfin rencontré son grand-père. Oui, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'en persuader quelques instants en allant saluer Antonio Banderas sur le tournage d'une série où l'acteur incarne le peintre espagnol.
Ouais.
Alors, pour l'entourage d'un personnage de biopic, la fiction s'en mêle les pinceaux avec la réalité. C'est ce que nous raconte le petit-fils de Picasso, Olivier, dans Paris Match. Extrait.
Selon vous, où est votre grand-père?
Lequel?
Grand-papa Fournier!
Quelle étrange question. Il est mort depuis longtemps.
Je le vois.
Mort et enterré?
Où ça?
Génie absolu.
À Dampierre, je crois.
J'aimerais que vous en soyez sûr.
Enfin, voyons, Hubert, qu'est-ce qui vous prend?
Voulez-vous que je vous dise où il est, votre grand-père?
Oui.
Il est dans un glaçon, et ça fait 65 ans qu'il est dans son glaçon. Ça vous rappelle rien, 65 ans? Un glaçon, hein?
Vous ne voulez pas dire qu'il hiberne?
C'est ce que je veux dire, voilà.
Mamie, grand-père est de retour.
Claude Jansac et Fufu dans Hibernatus qui vous a marqué, hein, vous qui excellez dans la comédie aussi,
ah
Valérie Carcenti.
C'est le génie, c'est la référence absolue. Totalement fou.
Un autre fou, Picasso. Et donc, c'est son petit-fils, Olivier Picasso, qui raconte dans Paris Match. Il voit Antonio Banderas sur le tournage. Il me serre dans ses bras et le moment est déroutant, dit-il. C'est lui et manifestement un autre. Mmh. Antonio Banderas semble ravi de la confusion. Il a eu le sentiment à un moment que son grand-père le prenait dans ses bras. Je me disais, est-ce que pour un acteur, c'est un peu le Graal que de jeter le trouble de la confusion du réel comme ça?
Bah forcément. Alors là, c'est particulier parce qu'il incarne quelqu'un qui a existé. Donc c'est toujours... Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir incarné quelqu'un qui a existé, mais beaucoup moins médiatique, avec une référence beaucoup moins forte que Picasso. Mais évidemment, mais ce qui est troublant quand on joue, c'est qu'on met tout est mis en place, et quand on a un grand metteur en scène, comme Ladislas par exemple, on y contribue. Tous ceux qui participent au spectacle, le décor, la lumière, tout est mis en place pour que justement on croit d'abord, nous, à ce qu'on est en train d'incarner et de vivre. Et sur Maison Close, par exemple, la réalité du décor, chaque détail, etc., au bout d'un moment, on est dans cette confusion et on se perd. Ça s'arrête, je vous rassure, immédiatement, dès que... Le but, c'est de s'amuser avec ça à l'intérieur quand on travaille. Dès que ça s'arrête, ça s'arrête.
Je
ne
sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a le documentaire Jim and Andy sur Jim Carrey qui jouait Andy Kaufman, qui est un humoriste, qui lui jouait déjà sur le dédoublement. Il n'est pas sorti de son personnage pendant un bon bout de temps, pendant le tournage, donc il parlait aux techniciens.
Et c'est bien chiant pour tout le monde.
Oui, et on le voit que c'est chiant pour tout le monde, mais lui, ça a l'air d'être sa façon de le travailler, de se concentrer.
Oui, mais je comprends très bien, oui.
Et cette histoire de transmission d'artistes, de peinture et de Picasso, ça se retrouve dans des thématiques, dans Les Inséparables que vous jouez au théâtre Héberto, Valérie Carcenti, justement en ce moment. Je vous renvoie donc à Paris Match pour cette page et ce petit témoignage. Alex Vizorek, là, je sais pas si vous allez vraiment croire votre personnage dans un studio de radio.
Je vais essayer.
Alors attention, parce que on l'a appris la semaine dernière, Christophe Salengro, le président de Groland nous a quittés. On n'avait pas assez rendu hommage à Groland. Alors Charlie nous a dit, et si on organisait sa succession? Vous êtes les Juliette.
Je suis très contente.
Les Juliette Édouard Moustique. Et puis on y va.
Bonjour à tous. C'est un jour important pour la présipotée puisque nous désignons un nouveau président.
Oui, c'est un casse-tête juridique car la Constitution stipule que notre président est amourable.
Et donc ?
Et donc, ce cas de figure n'a pas été envisagé.
Dans l'intervalle, c'est donc le coprésident Emmanuel Macron qui assure l'intérim. Mais qui sont les candidats à la succession de notre président ?
On se rend tout de suite au QG du premier candidat, Michael Keul. Et sur place, Michael ?
On ne vous entend pas, Michael.
Oui, Julie Edouard, je suis en direct du QG de Gérard Depardieu.
Ah, et quelle est l'ambiance ?
L'ambiance, ils ont été électrique, et Julie Edouard.
Allez, viens, Michael, viens, ma couille. On a débouché une 30e bouteille.
Je vous laisse, parce que à vous les studios, priorité au direct.
Merci, Michael.
Et on évoque aussi une possible candidature de Jean-Vincent Placé, qui, arrêté en état d'ébriété hier soir, a été automatiquement naturalisé grolandais.
Bravo à lui pour un Coréen du Sud, il a la descente d'un Français du Nord.
Et on retrouve tout de suite un autre envoyé spécial, Francis Kunz, au QG du deuxième candidat. Vous êtes là, Francis ?
Ouais. Hey, Julie Edouard, je suis là.
Alors, quelle est l'ambiance sur place ?
L'ambiance est excellente. Les gens chantent, les bras tendus, dans une atmosphère de fraternité virile, loin du cosmopolitisme des canons. Attendez, oh, attendez, le candidat va parler.
Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que je vais être votre président, le Groland au Grolandais, dehors les Rastakouais.
Ouais, on est avec toi, Jean-Marie.
Oui, merci, merci Francis Kunz. Merci, on reconnaît bien là votre objectivité légendaire. Hein.
Voilà. Et selon nos informations, l'ancien président de Radio Groland, Mathieu Goulot, briguerait également le poste.
Mathieu Goulot, qui, on le rappelle, avait été révoqué de la présidence de Radio Groland pour sobriété.
Et on retrouve notre troisième envoyé spécial, Francky Key. Vous êtes là, Francky ?
Oui.
Et vous êtes bien au QG de Julien Lepers ?
C'est-à-dire, comme vous me payez en bon d'achat, j'ai pas les moyens d'avoir une voiture. Puis, comme les chemins de fer grolandais sont en grève, j'ai pas pu prendre le train, quoi.
Pas très sérieux, ça, Francky.
Ouais, mais si j'étais pas stagiaire depuis 5 ans, j'aurais peut-être les moyens de me payer une bagnole, quoi. Et d'ailleurs, la grève, elle est pas prête de s'arrêter. Avec les camarades de Sud Bistro et de la CGT Vieux, on va bloquer tout le pays, d'accord ?
Merci, Francky, on va reprendre l'antenne.
Micron démission !
D'autres candidats se sont-ils déclarés, Julie Edouard ?
Écoutez, les rumeurs les plus folles circulent. Hervé Villard, Captain Igloo, Michel Galabru.
Ah, d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer ma candidature.
Quoi ?
Une femme à la tête de Groland, ça changerait, non ?
Et dans un pays peuplé à 90% de personnes âgées, vous croyez vraiment que les gens sont prêts ?
Eh ben, il serait bien de s'habituer.
Merci Valérie Carcenti.
Il était magnifique dans les spectacles de Découflé aussi. Oui, il n'était pas que notre président merveilleux. Oui. Il était génial.
Eh bien, hommage. Monsieur le Président Salengro, des Grolandais. Merci à tous et merci à Valérie Carcenti qui part donc au Théâtre Héberto pour aller jouer Les Inséparables aux côtés de Didier Bourdon, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant jusqu'au 13 mai et puis toujours dans Scène de Ménage bien sûr sur M6 à 20h25 tous les jours. On se retrouve demain et on laisse le mot de la fin à Jean-Vincent Placé.
Et donc je suis au nom du gouvernement de la France.
Un alcoolique notoire.